France Inter.
Le journal Xavier Demagny.
Bonsoir à tous. Deux semaines de lutte et peut-être enfin du répit. La fin des incendies se rapproche en Espagne, dit la sécurité civile. Premier espoir, même s'il reste plus d'une dizaine de foyers toujours actifs. Les Français de retour de vacances à une semaine de la rentrée scolaire. 800 km de bouchons au pic ce midi. Les pieds qui traînent, gare Montparnasse, de retour de la côte atlantique. Et une énorme frayeur en Normandie, un pan de falaise entier s'effondre près de Fécamp. Le football, ce soir, l'OM a ça de battre Paris, le Paris FC, tout juste promu en Ligue 1. Peut-être un soulagement au Vélodrome. Et le rugby, les Françaises dans les starting blocks pour le début de la Coupe du Monde en Angleterre. Virginie Hilson, les villes à météo, vous nous promettez un temps toujours estival demain.
Oui, très peu de changements et des températures en hausse, je vous en parle dans quelques minutes.
France Inter. C'est donc enfin un peu d'espoir en Espagne.
Aujourd'hui est un jour d'optimisme, d'optimisme modéré, d'optimisme qui doit continuer à être accompagné de prudence. Optimiste parce que, comme vous pouvez le voir, le nombre d'incendies actifs en situation opérationnelle dans notre pays a diminué de manière significative. Et je termine comme j'aime terminer chaque jour, en envoyant un message de courage, d'espoir. Nous devons continuer car nous voyons de plus en plus proche la fin pour tous les hommes et les femmes qui, au cours de ces journées interminables, ont donné le meilleur d'eux-mêmes.
La chef de la protection civile espagnole qui affiche donc un certain optimisme face à des incendies d'une ampleur historique, particulièrement dans l'ouest du pays, du jamais vu en 30 ans. Et surtout, Mathieu de Taillac, après des jours et des jours de lutte contre les flammes.
C'est la première fois qu'une source officielle liée au gouvernement donne enfin un message d'espoir. L'Espagne est, je cite, beaucoup plus proche de la fin des grands incendies. C'est ce qu'a dit ce matin Virginia Balcones, la directrice de la protection civile. Sur le terrain, on le constate, le terrible incendie de Jalía, par exemple, en Extrémadure, à l'ouest du pays, est contrôlé. On le surnommait El Monstro, le monstre. Il a réduit en cendres plus de 17 000 hectares à lui seul. Reste tout de même 18 incendies hors de contrôle, toujours dans le quart nord-ouest de l'Espagne, la zone qui a le plus souffert cet été, et ses 400 000 hectares brûlés en 2025, selon dernières estimations. Il faut remonter à 30 ans, à 1994, pour trouver un chiffre un peu supérieur, et sur une année entière. Et ce constat amer, cette impuissance, c'est uniquement quand la météo se calme que les feux redeviennent contrôlables. Pendant la canicule, au contraire, les secours en sont souvent réduits à protéger les populations et leurs habitations, et à attendre que les températures redescendent pour venir enfin à bout des incendies. Madrid, Mathieu de Taillac, France Inter.
L'Espagne qui déplore 4 morts à cause des incendies, même bilan au Portugal, voisin après le décès d'un pompier, des suites de ses blessures. Est-ce que tu reviens de vacances? La réponse est oui pour beaucoup d'entre vous. Jusqu'à 800 km de bouchons sur les autoroutes ce midi, samedi de grand retour. La situation s'améliore en cette fin de journée, mais toujours plus de 200 km de ralentissement. Ça va coincer également un peu demain encore. Du monde aussi dans les trains et les gares, comme à Paris-Montparnasse, TGV en provenance de la côte atlantique, et des voyageurs, Erwan Chassin, pas pressé de rentrer.
Des vacanciers qui traînent leurs valises et leurs sacs à dos comme des fardeaux. Le hall de la gare Montparnasse en est plein. Et oui, ça y est, retour à Paris. Pas sans regret pour Carole après un long trajet depuis l'île de Noirmoutier.
Ah oui, les vélos, les marais salants, la plage.
Retour sur le bitume parisien.
Ouais, c'est toujours un peu dur. Et puis le voyage, quoi, le car, le train. Oui, c'est sûr, c'est pas le moment le plus fun, le retour.
Terminé les grands espaces. Elle, comme tout le monde ici, tente désormais de se frayer un chemin au milieu de la foule de voyageurs, dont certains sont encore songeurs, notamment Félix, qui a passé plusieurs jours plongé dans la verdure en Lozère.
Je suis encore là-bas, moi, complètement, ouais. Ouais. Ah ouais. Se baigner dans le Tarn, faire du canoë, sol élastique, bien manger le soir, être avec les copains, tout ça, quoi. La vie.
C'est les vacances, quoi.
C'est les vacances, quoi.
Alors oui, c'est l'heure de poser ses valises. Beaucoup reprennent le travail dès lundi. Sauf Eric.
Au lieu de reprendre lundi, j'ai posé une RTT le lundi matin pour reprendre mardi.
Dans son dos, les TGV s'éloignent, s'allongent désormais devant lui les rames de métro.
Non, c'est pas terrible la fin. Quand on sait qu'au bout de quelques jours, on va reprendre. Et voilà, retour à la maison, quoi, et au boulot.
Heureusement qu'il y a un peu de soleil à Paris pour adoucir le retour, se consolent d'autres vacanciers.
Allez, courage. Reportage Erwan Chassin, gare Montparnasse. Là, les vacanciers qui étaient présents ont eu une sacrée frayeur. Nous sommes sur la côte normande, Saint-Martin au Buneau, tout près de Fécamp, Seine-Maritime. Un énorme bloc de roche s'est décroché de la falaise hier soir avant de s'effondrer dans la Manche. La scène s'est passée sous les yeux médusés des promeneurs, dont le maire adjoint de la commune, Philippe Duboc, il était sur place.
On entend un bruit, comme le bruit du passage d'un avion de chasse, en plus petit, et bah, tout le monde regarde, et vers la droite, bah, qu'est-ce qu'on voit ? Un peu de poussière. Il y a un léger éboulement de falaise qui vient de se produire côté Saint-Martin. Donc côté Dieppe, pour nous, de la plage des Petites Dalles. Et du coup, tout le monde se met à regarder. Et à ce moment-là, on a un énorme bloc qui se détache de la falaise, qui se détache du haut et qui glisse vers le bas, entraînant un nuage de poussière très important qui a recouvert une partie de la plage, les voitures sur le parking. Enfin bon, voilà, on avait l'impression d'être tout droit sorti d'un film de catastrophe.
Un témoignage du maire adjoint de Saint-Martin au bureau. Aucun blessé à déplorer, plus de peur que de mal. Donc, un phénomène spectaculaire, mais néanmoins fréquent, illustration de l'érosion du trait de côte normand en recul de plusieurs dizaines de centimètres chaque année. La rentrée politique, ce sera lundi pour François Bayrou. Conférence de presse du Premier ministre, avec au menu évidemment le prochain budget. Il sera débattu cet automne au Parlement. Le gouvernement prévoit 44 milliards d'euros de coupes l'an prochain. Depuis, les universités d'été de son parti, Jean-Luc Mélenchon, en a appelé hier à la grève générale, le 10 septembre, jour choisi par le mouvement Bloquons Tout, né sur les réseaux sociaux, en opposition à ce projet d'économie, mouvement soutenu par la gauche, notamment la France Insoumise, mouvement instrumentalisé par LFI, estime pour sa part la députée macroniste des Hauts-de-Seine, Prisca Thévenoud.
Nous, en tant qu'élus, en tant que responsables politiques, qui avons été justement précisément élus à l'Assemblée ou au Sénat, c'est pour porter ces revendications, mais les porter dans le cadre d'un débat sain et serein. Et les paroles de Jean-Luc Mélenchon n'a pas vocation à essayer de faire bouger le budget, n'a pas vocation à faire valoir des revendications pour les Français dans le cadre du budget, a simplement vocation à ne pas qu'il y ait des débats et à ce que le gouvernement tombe. On sait très bien ce que ça apporte en résultat budgétaire et économique pour le pays, et on sait très bien ce que ça apporte comme réponse concrète pour les Français. Zéro et une aggravation de la situation. Tous les ans, c'est la même histoire, le chaos et le chahut dans un seul et unique but, obtenir dans la rue ce qu'ils n'ont pas eu dans les urnes.
La députée Prisca Thévenoud, invitée de France Info. L'actualité ce soir, c'est aussi la mise en examen du gérant de ce parc de loisirs dans les Pyrénées-Orientales, soupçonné de discrimination fondée sur la religion pour avoir refusé l'accès de son établissement à un groupe de 150 jeunes vacanciers israéliens. Libéré à l'issue de sa garde à vue, il nie toujours et invoque un argument de sécurité. À Aurillac, dans le Cantal, de nouvelles violences la nuit dernière en marche du Festival international de théâtre de rue. Des slogans hostiles à l'État scandés par une cinquantaine de personnes. Et tout ça après une première nuit de violence et des policiers blessés. Hier soir, les gendarmes dépêchés sur place ont dû faire usage de gaz lacrymogène pour disperser la foule. Thibaut Delmarle.
Oui, des CRS qui ont fait face à des dizaines de personnes cachées sous des cagoules ou masquées qui ont, selon la préfecture, crié des slogans hostiles à l'État et aux collectivités sans que l'on connaisse par ailleurs le motif précis de cette manifestation. Ces festivaliers ont tenté de rassembler du monde, mais les policiers d'une compagnie de CRS sont parvenus à les disperser. Ils ont interpellé deux personnes. Déjà mercredi soir, une manifestation violente s'est déclarée en marge du festival qui rassemble 200 000 personnes chaque année. Des pavés ont été lancés sur les forces de l'ordre, des barricades ont été érigé. Résultat, 8 policiers avaient été blessés. Selon nos collègues d'ici Pays d'Auvergne, cette première nuit de violence a démarré après l'interpellation d'un festivalier pris en train de taguer un mur. On ne sait pas s'il y a eu un événement particulièrement déclencheur hier soir. En tout cas, ce festival international du théâtre de rue est régulièrement un moment et un lieu de contestation.
Thibaut Delmarle. Enquête ouverte à Paris après l'agression d'un homme dans le tramway porte de Vanves la nuit dernière. Un quadragénaire est actuellement en garde à vue, suspecté d'avoir bousculé et insulté une autre passagère, puis poignardé le compagnon de cette dernière lorsqu'il a tenté de s'interposer. Ce sera l'un des procès majeurs de la rentrée dans un mois, celui de Cédric Jubilard devant les assises du Tarn, jugé pour le meurtre de sa femme Delphine en 2020 près d'Albi. 4 semaines d'audience après une enquête longue de 5 années et de multiples rebondissements. Et si tout accuse l'ouvrier de 38 ans, ce dernier n'a cessé de nier et le dossier ne comporte aucune preuve formelle de son implication. Difficile donc, Jean-Philippe Degnaud, d'imaginer à la avance, quel sera le verdict ?
Cet été encore, un témoignage est venu bousculer une enquête que l'on croyait achevée quand une compagne de détention de Cédric Jubilard a révélé des aveux que lui aurait formulés son amant au parloir à plusieurs reprises. Révélation immédiatement démentie par l'accusé et, du reste, totalement invérifiable. La jeune femme viendra témoigner en cour d'assises et sa version alimentera l'intime conviction des jurés d'Albi. Et il en sera ainsi pour tous les éléments à charge du dossier. Les autres aveux que Cédric Jubilard aurait passé, les contradictions relevées au fil de ses interrogatoires, ce divorce annoncé qu'il refusait d'admettre et aussi la conclusion des juges d'instruction selon laquelle personne d'autre que lui n'a pu faire disparaître Delphine. Alors, à un mois du procès, les avocats de Cédric Jubilard lancent un appel au calme, à une certaine rigueur intellectuelle, disent-ils, en brandissant cette question lancinante qui mobilisera la défense pendant les 4 semaines de débat, cette question ultime qui déterminera le choix des jurés, où sont les preuves ?
Cédric Jubilard, dont l'avocat historique Jean-Baptiste Allary s'est retiré du dossier au cœur de l'été, expliquant que la pression médiatique avait eu de graves répercussions sur sa santé. 19h11.
France Inter. Xavier Demagny.
De l'air, enfin, pour l'OM. Victoire 5-2 des Marseillais à domicile il y a quelques minutes et contre Paris. Les promus du Paris FC, deuxième journée de Ligue 1 de football. Bonsoir Nicolas Perronnet.
Bonsoir Xavier.
Ça fait du bien pour l'OM après un début de saison très très agité.
Oui, des sourires, de la légèreté et surtout peut-être un peu de calme. Voilà ce dont avait besoin cet Olympique de Marseille pour sa rentrée sous très haute tension aujourd'hui au Vélodrome. Et bien c'est ce qu'il y a eu à la fin de cette rencontre remportée avec la manière. 5-2 pour mettre un terme du moins temporairement au feuilleton Adrien Rabiot, évidemment, qui a agité tout Marseille cette semaine. Celui qui a fait un petit peu oublier la crise, eh bien, c'est Pierre-Emerick Aubameyang. 2 buts et un pénalty provoqué pour l'attaquant gabonais de retour à l'OM à 36 ans. Il a été ovationné par le Vélodrome, qui n'a montré aucun signe d'hostilité envers la direction de l'OM, malgré les soubresauts de cette affaire Rabiot. L'OM se donne donc un peu d'oxygène en remportant sa première victoire de la saison avant un déplacement toujours périlleux à Lyon le week-end prochain, et puis la réception qui arrivera très vite du Paris Saint-Germain, le tout en cette fin d'après-midi ensoleillée devant les yeux du propriétaire de l'OM, l'américain Frank McCourt, qui a affiché hier sa solidarité avec la direction du club.
Nicolas Perronnet en direct de Marseille. Les autres rencontres de ce soir à Nice, Auxerre, ça commence tout juste, et Lyon face à Metz à 21h. Elle vise la finale Coupe du Monde de rugby en Angleterre. Les Françaises entrent dans la danse tout à l'heure autour de 21h15 contre l'Italie. Il va falloir charbonner pour briser le plafond de verre. Bonsoir Fanny Lechevestrier.
Bonsoir Xavier, bonsoir à tous.
Jusqu'ici, les Bleus ne sont jamais allés au-delà de la 3e place dans la compétition.
Oui, c'est vrai, même si elles n'ont pas à rougir de leur bilan, c'est quand même pour la 4e nation mondiale, 7e place en 9 éditions. Mais vous avez raison, elles veulent désormais franchir ce cap, atteindre les finales. La finale, c'est l'objectif fixé et même l'objectif encore plus grand. L'ambition suprême, c'est de remporter tout simplement la Coupe du Monde pour la première fois de l'histoire. Pour la France, on n'en est pas là, mais on va se rassurer en se disant que l'Italie, elle, n'a jamais franchi le stade des quarts de finale. L'Italie que les Bleus affrontent ce soir, l'Italie 7e nation mondiale. Sur le papier, normalement les Bleus sont favorites, mais attention, les Italiennes posent régulièrement des problèmes à l'équipe de France. Ça s'est vérifié notamment lors du dernier tournoi Destination où les Bleus avaient été très très longtemps malmenés avant de s'imposer sur le fil, et il faut absolument gagner ce soir pour l'équipe de France parce que c'est le match le plus difficile de la poule. Ensuite, en cas de victoire, les Bleus pourront sereinement envisager la qualification pour les quarts de finale.
Et coup d'envoi dans 2 heures. tout juste désormais France-Italie, Coupe du Monde de rugby. Merci Fanny Lechevestrier. Jasper Philipsen en rouge sur la Vuelta Victor au sprint pour le Belge sur la toute première étape du Tour d'Espagne. Il avait réalisé la même performance en début de Tour de France en juillet. La Vuelta partie d'Italie, vous m'avez bien entendu, qui fera aussi un passage en France avec une arrivée à Voiron en Isère, mardi, édition quasiment promise aux Danois. Vingegaard, son rival Pogacar, ayant déclaré forfait.
La météo avec la MAE. À l'école ou en vacances, l'assurance scolaire MAE protège vos enfants par tous les temps. MAE, grandir avec assurance.
Virginie Hilson-Lévy, la soirée sera agréable mais fraîche dans les campagnes.
Oui, un temps calme sous un ciel bien dégagé quasiment partout. Les températures redescendent rapidement au nord et au centre, dans les terres. Il fera frais d'ailleurs en début de nuit. Le sud va conserver une douceur estivale, notamment au bord de Méditerranée. Et demain dimanche, assez peu de changements côté météo, du soleil quasiment partout toute la journée. Quelques passages nuageux toujours plus fréquents au nord, avec davantage d'éclaircies que ce samedi. Des nuages élevés au sud, mais avec du beau temps à surveiller, surtout un risque orageux en fin de journée sur la région Midi-Pyrénées.
Et les températures vont bien remonter. Hein.
Oui, surtout l'après-midi. Alors le matin, 10 à 20 degrés du nord au sud. Toujours un petit peu plus frais dans les campagnes du nord et du centre. Et on va gagner dans l'après-midi 2 à 3 degrés selon les régions. On attend 24-26 degrés au nord de la Loire, 26 à 30 degrés au sud et jusqu'à 32-33 degrés au sud-ouest avant donc l'arrivée des orages en soirée.
Merci Virginie Hilson-Lévy.